Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dans les années 50, on disait d'eux qu'ils étaient des infirmes ou des inadaptés. Dans les années 70, on leur a donné le nom d'handicapés. Aujourd'hui, l'on dit plus volontiers personne handicapée ou personne porteuse d'un handicap. Le handicap, une réalité qui, si elle est de mieux en mieux acceptée, continue de faire peur. Qui plus est, le handicap mental ou la maladie psychique. Les chrétiens, comme beaucoup d'autres, essaient de se rendre présents à cette réalité, essaient d'accompagner, de soutenir ces personnes et vont même jusqu'à chercher avec eux le sens, voire la richesse de ce chemin avec un pas de côté. Maladie psychique, quelle pastorale, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Émission sur un thème délicat autour du plateau. Pour en parler, il y a du monde. On va commencer avec vous, Philippe de la Chapelle. Vous êtes directeur de l'Office chrétien des personnes handicapées et vous êtes avec nous au téléphone depuis Paris. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous aussi, José Resson, vous êtes responsable du groupe Amitié Espérance de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Antoinette Rastol-Pouzin, que vous êtes responsable du Relais Lumière Espérance à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Anne-Marie Borès, vous êtes et Marie-Ange Lafuente, vous êtes donc toutes les deux participantes de groupe Amitié Espérance. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Voilà, parlez bien tous près du micro et tout se passera bien. On va commencer avec vous, Philippe de la Chapelle. Vous venez donc de publier un livre paru aux éditions MAM, ça tombe bien, intitulé donc La voix de la fragilité. C'est un livre à deux voix, c'est un livre de dialogue qui a été écrit par un journaliste de chez vous, Cyril Douillet. C'est un livre de dialogue avec Jean-Christophe Parizeau, qui est un préfet porteur d'un handicap, le premier préfet. Handicapé, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le présenter. Alors je voulais avec vous, tout simplement, on va commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ne connaissent pas l'OCH, est-ce que vous pourriez, Philippe de la Chapelle, commencer par vous présenter un petit peu et présenter brièvement l'OCH?
Oui, écoutez, mon âge, 64 ans, pour qu'on ait une idée, et depuis 20 ans quasiment, engagé auprès de personnes handicapées, d'abord à l'Arche de Jean Vanier, et maintenant, et depuis déjà presque 20 ans, à l'Office chrétien des personnes handicapées. Et quand je dis engagé, c'était une expérience de rencontre, à vrai dire, qui m'a été donnée au sortir d'une école de commerce, qui m'a fait rencontrer notamment une personne qui s'appelle Pierre, qui a transformé ma vie, ce qui fait que j'ai choisi, à la suite de cette rencontre, de m'engager à l'Arche, puis à l'OCH. Et l'OCH, c'est une fondation qui va à la rencontre des personnes handicapées et beaucoup de leurs familles. Nous sommes beaucoup en lien avec les familles pour les accompagner de façon les plus diverses, et c'est avec elles que nous montons, par exemple, des journées de maman, des journées de papa, des journées de frères et sœurs et toute autre personne qui sont autour de la personne handicapée, auxquelles on ne pense pas toujours. On pense souvent à la souffrance de la personne, on ne pense pas toujours à la souffrance de ceux qui sont autour de lui, notamment les frères et sœurs, ou lui-même les grands-parents et d'autres. Et donc on est là pour chercher ensemble comment on peut à la fois être aimant de ce fils, de ce frère, de ce petit-fils qui porte un handicap ou une maladie psychique, et comment en même temps on peut, j'allais dire, être heureux. Parce que handicap et bonheur ne s'opposent pas forcément, ni pour la personne handicapée, ni pour ceux qui sont autour de lui, mais ça passe par un certain nombre de raisons que l'OCH a vocation à développer, et notamment l'amitié, la rencontre.
Alors, le sous-titre de votre livre qui esquisse justement déjà un chemin vers ce chemin de bonheur, comment le handicap change notre regard sur l'humain et sur la société. Dans ce livre, vous parlez d'un certain Pierre, vous l'avez évoqué rapidement, vous dites que ça a été un peu une conversion pour vous, au sens où vous le racontez en tout cas comme tel, quand on fait du ski, on change de côté à 180 degrés. Racontez-nous cette rencontre avec Pierre, est-ce qu'elle est venue changer en vous?
Oui, alors je vais essayer de la faire court, mais c'est vrai que faisant un service militaire proche de Paris, on m'a parlé d'un petit foyer qui cherchait des jeunes, à l'époque j'étais jeune, pour partager la vie de personnes handicapées, mentales, légères. Je me suis trouvé partager la chambre de ce Pierre, qui en fait souffrait de troubles psychiques, qui faisait qu'il dormait très peu, qu'il se levait la nuit souvent pour faire des tas de choses un peu difficiles, du type monter sa mobilette dans la chambre ou allumer du feu dans le jardin juste devant la maison. Et en fait, moi qui étais venu pendant cette année de service militaire pour être utile, pour faire du bien à Pierre et aux autres, je me suis trouvé très embarrassé de ce comportement imprévisible qui résistait tout à fait à ma générosité. Et Pierre m'a toujours, qu'on s'est souvent disputé parce qu'il faisait beaucoup de bêtises, est toujours revenu vers moi le premier en me disant « Est-ce que tu restes mon ami? Est-ce que tu m'aimes quand même ?» Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est notre question à tous. Lui, de façon visible, parce qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à demander et à présenter, mais moi, finalement, qui étais un jeune homme de plein d'engagement, plein de réussite, en fait, j'avais la même demande que Pierre, est-ce que je suis aimable comme je suis? Et lui me donnait son amitié, et il me demandait la mienne de façon inconditionnelle, et j'ai réalisé que, en fait, c'est ça notre aspiration à tous. C'est pas de réussir des grandes choses, c'est de savoir qu'on est aimable tel que nous sommes, et les personnes avec handicap nous mettent sur ce chemin-là. Nous mettre sur ce chemin d'amitié inconditionnelle, qui est un chemin qui rend heureux tout un chacun. Ce qui fait que la voie de la fragilité, c'est pas juste pour, de changer de regard sur les personnes handicapées, c'est pour changer de regard sur nous-mêmes dans cette dimension fragile que nous avons tous. Il y en a, ça se voit, les personnes handicapées, par exemple. Il y en a, ça ne se voit pas. Et mais pourtant, la fragilité, elle est bien dans notre vie à tous.
Philippe de la Chapelle, dans une interview que vous avez donnée à un autre média, en l'occurrence, c'était KTO, une émission donc de dialogue avec vous et Jean-Christophe Parizeau, je crois que l'un ou l'autre disait, au moment quand on a écrit ce livre, on s'est dit qu'on allait écrire un livre qui allait un peu rester dans l'entre-soi, parce qu'on allait être d'accord un peu sur tout. Vous fréquentez les personnes porteuses d'un handicap depuis de nombreuses années, lui-même donc est atteint de myopathie, on le voit, hein, il est, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est assis en fauteuil, il a un micro près de la bouche pour qu'on puisse l'entendre, il a toute sa tête, cet homme donc qui est le premier préfet handicapé donc depuis 2012. Est-ce qu'il y a des choses dans ce dialogue où vous vous êtes dit, qui vous ont surpris, qui vous ont aidé à creuser ce titre que vous avez probablement choisi ensemble, La Voix de la Fragilité? Quelles ont été les bonnes surprises de ce dialogue?
Vous savez, je vais peut-être vous surprendre, mais bien que je sois depuis 40 ans auprès de personnes handicapées, j'appréhendais ce dialogue avec beaucoup de préjugés. D'une certaine manière, j'avais peur. Peur de Jean-Christophe, parce que cet homme, de fait, vous l'avez dit, porte un handicap, et un handicap qui est lourd, il est tétraplégique, mais aussi il est préfet, mais aussi il est diacre, mais aussi il a écrit de nombreux ouvrages, donc c'est un tribun. Et d'une certaine manière, j'arrivais plein de préjugés, et finalement, j'ai à nouveau fait l'expérience que ce qui nous rapproche dans la vie et qui nous débarrasse de nos préjugés, c'est la rencontre. Nous nous sommes rencontrés avec Jean-Christophe et on a pu effectivement échanger sur nos histoires, nos expériences qui sont différentes. C'est deux angles très différents. Lui qui porte et qui vit le handicap dans sa chair, moi qui rencontre jour après jour des personnes de tout handicap, de toute maladie, pour découvrir ensemble finalement un chemin d'humanité. Je pense que ça a une portée universelle pour tout un chacun. Vous avez dit tout à l'heure, on a beaucoup évolué avec le handicap, c'est vrai, mais je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup à évoluer dans la société et dans l'Église. Et on va parler de maladie psychique. C'est particulièrement vrai que la maladie psychique est aujourd'hui vraiment mal accueillie, mal accompagnée dans la société, mais aussi dans l'Église. Et c'est à chaque fois et toujours la rencontre qui nous permet de trouver un chemin. Et dans cette rencontre, c'est pas l'un qui fait pour l'autre, c'est ensemble, on cherche et on trouve. Et avec Jean-Christophe, d'une certaine manière, on a cherché et trouvé ce qu'on a appelé la voie de la fragilité. C'est ce chemin où on peut se réconcilier avec cette part fragile de nous-mêmes pour découvrir qu'elle n'est pas un danger, qu'elle n'est pas une tare, qu'elle n'est pas un risque, mais au contraire, elle est l'occasion pour devenir plus humain, parce qu'on va s'entraider, en fait. On va s'entraider et on a besoin de ça dans la société aujourd'hui, qui est une société très individualiste. C'est découvrir qu'on est fait pour s'entraider les uns les autres, et les personnes fragiles ont un talent fou pour nous mettre sur ce chemin.
Alors venons-y justement à cette période contemporaine. Je l'ai cité en introduction et je crois que c'est vous qui le dites à un moment. Les personnes handicapées, on les appelait donc des infirmes ou des inadaptés, oui, dans les années 50-60, après donc des handicapés dans les années 70. Aujourd'hui, c'est plutôt personnes handicapées, personnes porteuses d'un handicap. Il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de pas qui ont été faits. On pense entre autres à cette loi à l'école qui, depuis 2005, donc oblige à scolariser les enfants porteurs d'un handicap. qu'est-ce que vous diriez de la situation ? Des grands pas ont été faits, mais il en reste encore des immenses à faire. Alors vous qui fréquentez cette réalité depuis longtemps, qu'est-ce qui a changé dans notre approche culturelle du handicap et qu'est-ce qui reste à faire encore ?
Oui, alors, de fait, des grands pas ont été faits, il faut les saluer. Hein. Vous avez parlé de l'école, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui reste beaucoup à faire hein. On n'a pas parlé d'entreprise, mais on pourrait le dire pour l'entreprise, on a fait beaucoup de progrès. Mais qu'est-ce qui reste à faire encore? Et là encore, je dirais, pour y associer l'Église, on a fait des grands pas dans l'Église, mais qu'est-ce qui reste à faire encore?
Est-ce que vous pouvez vous arrêter oui sur le monde de l'entreprise, par exemple? Quels ont été les pas qui ont été faits et qu'est-ce qui resterait à faire encore?
Alors, les pas qui ont été faits, tout simplement, c'est en termes de nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise. Elles sont plus nombreuses qu'il y a 10 ans, mais elles sont encore très, très nombreuses au chômage. Deux fois plus que le chômage touche deux fois plus les personnes handicapées que la moyenne nationale. Donc, le chemin est encore énorme, et je crois qu'il est énorme du point de vue... il faut apprendre un nouveau management qui fait place à la fragilité. Et en fait, c'est la bonne surprise, hein, c'est que ceux qui s'y risquent découvrent souvent qu'en réalité, intégrer une personne handicapée, on le fait que parfois parce qu'on n'a pas envie de payer les amendes, on le fait parfois parce qu'on un peu par charité, pardon de ce terme qui est magnifique mais qui est souvent mal utilisé. Mais en fait, on découvre souvent que d'inclure une personne handicapée dans un service, le service marche mieux parce qu'il introduit une dimension de solidarité qui est nécessaire. Une équipe qui marche, c'est pas une équipe qui est juxtaposée les uns côté des autres. C'est une équipe où on s'appuie les uns sur les autres et on peut se dire les uns aux autres, j'ai besoin de toi. Et les personnes handicapées nous mettent dans cette dynamique-là, comme elles nous mettent dans une dynamique de gratuité qui donne du sens à nos vies. Et du coup, souvent, les entreprises qui incluent des personnes handicapées découvrent des entreprises plus apaisées et fonctionnant mieux parce que travaillant plus dans une logique d'entraide mutuelle. Alors, je prends cet exemple, il y a énormément à faire, mais je suis assez confiant que si on ose faire le pas, parfois on me dit non, mais je ne sais pas faire, c'est trop compliqué. Mais ne cherchons pas à savoir, faisons l'expérience. Et l'expérience, souvent, nous mettra sur le bon chemin, parce que les personnes handicapées savent très bien nous donner le chemin. Elles savent très bien nous dire comment on fait. Et donc, d'essayer, tout simplement, de façon très pragmatique de le faire, souvent nous met dans un cercle vertueux qui est gagnant pour tous.
Autre réalité de la société, c'est évidemment les révisions des lois de bioéthique. Oui. Elles sont en cours, elles ont été votées donc à l'Assemblée nationale, elles doivent passer au Sénat, il y a des mobilisations en cours, l'OCH et donc la revue, entre autres, Ombre et Lumière, qui est la revue de votre mouvement, dont Cyril Douillet est rédacteur en chef, qui a conduit donc cette interview, ce livre de dialogue. Vous laissez entendre que à trop vouloir masquer le handicap, ou en tout cas à se prémunir du handicap, on court vers une société où il y a non seulement une tyrannie de la performance, mais enfin on devient comme les prisonniers de notre propre violence. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ?
Oui, si je vais dire à grand coup de serpe l'évolution, il y a 40 ans, le handicap, c'était un problème à résoudre, j'allais dire. Et du coup, on développait des dispositifs pour intégrer les personnes handicapées de façon un peu brutale parfois, mais au sens où on prenait pas assez en considération l'aspect presque personnel de chacun. Mais néanmoins, on progressait. Aujourd'hui, on est rentré dans une logique de problème à éliminer. Et pour éliminer le problème, très souvent, malheureusement, on élimine la personne. Et on le voit bien à travers les lois bioéthiques qui, tous les 5 ans, seront révisés et sont révisés pour devenir un peu plus eugénistes. Et quand je dis eugéniste, c'est une réalité des faits.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple dans les révisions actuelles qui vous inquiète particulièrement ?
Tout ce qui touche aux détections préimplantatoires ou prénatales, on fait toujours des pas supplémentaires pour essayer de plus détecter. Alors la trisomie, qui est prise souvent en objet particulier, mais c'est vrai pour d'autres formes de pathologies. Et on a bien vu dans le débat bioéthique il y a 15 jours, 3 semaines, là, combien ça a été un débat pour savoir si on devait introduire le diagnostic préimplantatoire pour toutes les personnes qui auront accès à la PMA. Il a été choisi que non, mais on sent bien que c'est reculé pour le mieux le faire dans quelques années, si jamais ça ne se fait pas encore, parce que c'est en train de revenir sur le devant de la scène. Donc on est un peu dans ce paradoxe, à la fois à mettre en place une loi qui est très très inclusive, et je m'en réjouis, et en même temps des lois qui sont très très exclusives, tellement exclusives qu'elles sont eugénistes. Et je pense que ça parle du tiraillement qu'il y a en nous devant la question de la fragilité, de la souffrance, de l'épreuve. Et précisément, c'est ça toute la tension sur laquelle on est. On le voit bien avec le transhumanisme. Tout ce qui se joue autour du transhumanisme, c'est d'essayer d'éliminer la fragilité de nos vies. Mais la fragilité, elle fait partie de nos vies. Et de cette manière, c'est ça que les personnes handicapées peuvent apporter à notre société, c'est de nous réconcilier avec cette part fragile de notre humanité pour en faire non pas le lieu de l'exclusion, voire de l'élimination, mais le lieu de la rencontre et du mieux vivre ensemble. Et c'est un enjeu majeur de notre société d'aujourd'hui. La fragilité, c'est la grande question de notre siècle. Hein. C'est vraiment fragilité interdite. Et ça, ça nous ampute de nous-mêmes, parce que nous sommes fragiles. Donc, comment nous réconcilier? Eh bien, mettons-nous à l'école de la rencontre avec les personnes handicapées, avec les personnes fragiles en général. Il va y avoir Fratello à Lourdes là, ce week-end. Ben, je peux vous dire que c'est une rencontre de gens fragiles qui vont nous mettre dans une humanité plus grande, tout simplement parce qu'on va s'accueillir les uns les autres tels que nous sommes.
Alors, Philippe de la Chapelle, justement, avant de vous quitter, j'aurais encore deux questions. Une, j'aimerais que vous reveniez justement sur le chemin que vous a aidé à faire Pierre. Et puis toutes les personnes que vous avez rencontrées, que vous avez accompagnées, que vous avez connues via vos divers engagements donc à l'Arche et aujourd'hui à l'Office chrétien des personnes handicapées, vous dites donc dans votre livre, qui a un ton très personnel, hein, vous parlez à la première personne ainsi que Jean-Christophe Parizeau, que Pierre vous a aidé à identifier en vous une fragilité que vous n'arriviez pas à aimer. Expliquez-nous ce chemin de manière peut-être plus précise ou plus posée que nous invite à faire les personnes qui, elles, ne peuvent pas masquer cette fragilité.
Alors, je vais le dire un peu autrement, mais de fait, je pense que la fragilité, elle est dans nos vies. D'abord, nous naissons fragiles et nous mourrons fragiles très probablement si nous allons dans le grand âge. Et entre les deux, la fragilité est toujours là, mais on la masque. On peut se la cacher aux autres, on peut se la cacher même à soi-même. On est même capable de développer des stratégies assez remarquables pour ne pas se la cacher parce que ça nous mettrait en danger de partager ce qu'il y a de fragile. Donc, il faut toujours être fort. On est toujours convoqué sur le registre de la force et de la performance. Vous l'avez dit tout à l'heure. La force des personnes handicapées, c'est justement de nous aider à consentir à ça et de ne pas en faire un obstacle, mais au contraire, le chemin, la voie de la fragilité, la voie de la rencontre. Et ça, c'est, mais ça passe par des choses très très concrètes. Avec Pierre, c'était vraiment qu'il n'en avait rien à faire de mes diplômes, par exemple. Alors que moi, j'étais à m'honorer tout le temps de ce que j'avais réussi, etc. Lui, c'était pas son sujet. C'était, est-ce que tu veux bien être mon ami? Et il me donnait son amitié sans condition. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. Moi, maintenant, j'ai 64 ans, mais je continue d'avoir besoin d'être guéri là-dessus. Et la rencontre des personnes handicapées m'aide à ne pas entrer dans le registre du succès, de la performance, etc. Mais dans le registre de la rencontre et de l'accueil inconditionnel. C'est la voie de l'évangile, hein. L'évangile, c'est vraiment l'amour inconditionnel, hein. Jésus nous choisit chacun tel que nous sommes. Il n'y en a rien à faire de nos réussites, de tout ce qu'on veut. Il nous choisit tel que nous sommes pour nous mettre sur un chemin de fraternité qui nous rend heureux, mais c'est très concret. Ça passe par une vie quotidienne. C'est ce qui se vit à l'Arche, c'est ce qui vit à Bras Ouverts, c'est ce qui vit à Foi Lumière, à Relais Lumière Espérance. C'est cette façon, à Amitié Espérance qui sont en ligne, c'est cette façon qu'on a de faire communauté ensemble en s'accueillant les uns les autres tels que nous sommes. Et ça passe par la rencontre. Amitié Espérance, c'est de la rencontre. Relais Lumière Espérance, c'est de la rencontre. Foi Lumière, c'est de la rencontre, etc.
Voilà, merci beaucoup Philippe de la Chapelle. Donc le titre de ce livre, La Voix de la Fragilité, paru aux éditions MAM, un livre de dialogue donc avec Jean-Christophe Parizeau. Je disais que j'avais une dernière question. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot d'ombre et lumière pour tous ceux qui sont plus intéressés, qui voudraient un accompagnement un peu au long cours de cette revue que vous avez au sein de votre mouvement?
Oui, et vous savez, ceux qui sont plus intéressés, je pense que c'est tout un chacun, tous nos auditeurs aujourd'hui devraient être abonnés à Ombre et Lumière. Je le dis avec un peu de sourire, mais c'est
non,
vrai.
Non, vous avez raison, c'est important
c'est
de le dire.
C'est vrai, parce oui, que oui. Les personnes, finalement, dans Ombre et Lumière, c'est la parole qui est donnée à des personnes handicapées, à des familles, à des personnes engagées dans le monde du handicap et de la fragilité ou de la maladie psychique. Et ces gens-là, encore une fois, ils nous enseignent sur comment, qu'est-ce que c'est que la personne et comment vivre ensemble de façon la plus humaine possible et de façon extrêmement concrète. Ce qui fait que toute personne qui, un jour, quelqu'un m'a dit, mais moi je préfère lire Ombre et Lumière que toute autre forme de revue parce que j'apprends là, finalement, à vivre ma vie familiale, à vivre ma vie sociale, à vivre ma vie ecclésiale. Eh ben oui, c'est mystérieux, mais les personnes fragiles ont ce talent de nous mettre sur le chemin de l'humanité, de quelque chose d'humain. Et je pense qu'en s'abonnant à Ombre et Lumière, c'est une façon de communier les uns avec les autres et de faire une famille autour des plus fragiles.
Merci beaucoup Philippe de la Chapelle. Ombre et Lumière, c'est donc la revue de l'OCH et le titre du livre La Voix de la Fragilité, paru aux éditions MAM. On va faire une première pause musicale et puis on va retrouver nos invités pour parler donc des relais Lumière Espérance et d'Amitié Espérance, deux associations qui sont nées aussi dans le sillage donc de l'Office chrétien des personnes handicapées. Thank you.
Emmanuel Pella.
Maladie psychique, quelle pastorale ? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On était donc au début de cette émission avec Philippe de la Chapelle, directeur de l'Office chrétien des personnes handicapées, OCH, qui était donc depuis Paris, qui est le co-auteur d'un livre de dialogue paru aux éditions MAM, intitulé La voix de la fragilité, avec Jean-Christophe Parizeau, pour rappel, qui est donc le premier préfet handicapé de France. Autour du plateau, José Resson, qui est responsable du groupe Amitié Espérance de Toulouse, Antoinette Rastol, Pouzin, qui est responsable de Relais Lumière Espérance. On va voir la différence entre ces deux associations et leur complémentarité. Et Anne-Marie Borès et Marie-Ange Lafuente, toutes les deux qui fréquentent ces groupes d'amitié Espérance, qui nous donneront à la fin de cette émission leur témoignage. Il y a donc, c'est bien, il y a une filiation entre l'Office chrétien des personnes handicapées et puis vos deux associations. J'ai lu, José Resson, que donc en 1982, l'OCH et le Secours catholique s'étaient, on va dire, tenu la main pour essayer de trouver dans les régions, sur les territoires et au plus près en fait des personnes, des manières de créer des relais, des groupes d'amitié, des lieux de rencontre, comme le dit Philippe de la Chapelle, tant pour les familles que les personnes atteintes donc de maladies psychiques. Racontez-nous un peu ce lien qu'il y a entre l'OCH et vos associations. C'est un peu la même famille.
Oui, alors l'OCH a fait naître un certain nombre de mouvements, dont le relais. Moi, je n'étais pas dans le coup il y a si longtemps, mais j'ai participé au relais avec Antoinette et d'autres. Et plus tard, on s'est dit que ça serait intéressant quand même de faire naître un mouvement Amitié Espérance à Toulouse, mais qui existait déjà depuis longtemps.
Alors j'ai cru comprendre que tout ça était né aussi à la réponse à un cri qui avait été lancé à Lourdes par une personne qui elle-même était porteuse d'un handicap ou d'une maladie psychique, disant que nous avons besoin d'une dimension spirituelle, de cette lumière, de cette espérance dans notre vie. Bref, l'Église s'est mise un peu en route et puis localement on a donc se sont développés ces mouvements. Racontez-nous, vous, Antoinette Rastol-Pouzin, comment vous est venue l'idée de développer ce relais Lumière Espérance. Tout ça est lié à votre histoire personnelle.
Oui, tout à fait. Nous ne savions pas que Relais existait à ce moment-là. En 89, lorsque mon fils aîné est tombé malade, nous avons fait partie de l'UNAFAM.
Alors juste Relais, c'est donc ça s'adresse aux familles, et Amitié Espérance, c'est aux personnes concernées
par
la maladie.
Voilà, c'est ça, la distinction. Voilà, aux proches. Et bon, nous ne savions pas du tout que Relais existait, faisant partie de l'UNAFAM.
Alors, votre fils avait quoi, juste
ce serait une maladie schizophrène, paranoïde, tel que ça a été diagnostiqué à l'époque.
Donc vous avez cherché tout de suite du soutien ou
Nous avons
eu
la chance, des gens nous ont dit, il y a l'UNAFAM, etc. Donc on a adhéré, on s'est rencontrés quelques fois, et 10 ans après, il y a eu un groupe de parole qui s'est mis en place avec un psychologue à l'hôpital Purpan. Donc on allait aux rencontres, je ne sais pas si c'est tous les 15 jours ou une fois par mois, mais alors ça nous a fait beaucoup de bien de rencontrer des familles qui étaient concernées par la même chose. On était libre de parler, mais il n'y avait pas cette dimension spirituelle. Mais moi, j'avais vu quand même qu'il y avait deux personnes qui partageaient la même foi. Et alors, quand on a passé toute l'année à nous rencontrer, dans les couloirs, on s'est dit, c'est drôlement bien d'être aidé par un groupe de parole comme ça, mais à nous, il nous faudrait une dimension spirituelle. C'est de cette phrase qu'est née, qu'a été conçue un groupe chrétien. Nous ne savions. Alors, la pastorale de la santé nous a orientés vers l'aumônier de Purpan. Et là, on a passé aussi une année. On était quatre mamans à se rencontrer. Et comme l'aumônier est reparti pour raison de santé dans les Pyrénées, nous nous sommes retrouvés sans rien. Et nous avions là une grande amie que je salue, qui nous écoute aujourd'hui, qui a 96 ans, qui est magnifique, qui, elle, s'est renseignée pour trouver un lieu d'accueil et une personne pour nous accompagner. Et donc, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on a rencontré, qu'on a eu le 27 rue Sainte-Philomène, où nous nous rencontrons aujourd'hui à Toulouse. Et par le diocèse, nous avons accueilli José pour nous accompagner à ce moment-là.
Comment vous résumeriez le but de ces relais Lumière Espérance, qui sont des lieux de rencontre pour les familles de personnes atteintes de maladies psychiques? Quel est le but?
Bien, nous nous rencontrons en toute amitié, fraternité même. Hein, nous sommes dans l'écoute les uns des autres. Nous n'avons pas besoin de trop intervenir, puisque ce que les uns vivent, les autres l'ont vécu. Il y a une grande liberté de parole. On se sent en confiance. Et il y a cette dimension spirituelle qui est très importante pour nous.
Mais alors justement, je reformule ma question. Oui. Quel est le but? Le but, c'est quoi?
C'est de
trouver Dieu au milieu de cette difficulté.
Dieu, on l'a plus ou moins dans notre vie, mais on avance dans notre foi. Et c'est surtout d'être accompagné dans cette épreuve qui peut durer toute une vie.
José Resson, comment vous diriez-vous pour les groupes Amitié et Espérance, qui eux sont donc à destination des personnes qui sont elles-mêmes concernées, ce mouvement qui fêtait donc ses 40 ans en 2018, quel est le but? On trouve cette phrase par exemple sur vos différents sites internet: un frère appuyé sur un autre frère est une citadelle imprenable.
Tout à fait, quand on est seul, en difficulté et tout seul, c'est très lourd. Tandis que si on se rencontre, qu'on s'appuie les uns sur les autres, on peut partager avec tout ce qu'on vit sans se juger, alors que la société juge beaucoup les personnes en difficulté psychique. Quand on regarde les insultes que les gens s'adressent, tarés, malades, perturbés, fous, cinglés, etc. On voit que la maladie psychique, c'est ce qui est le plus détestable dans notre société. Donc on a besoin, entre nous, de trouver un endroit où on peut s'accueillir les uns les autres avec amitié et avec respect, avec...
Mais ça, on peut trouver ça dans un groupe qui n'est pas forcément chrétien. Donc,
tout à fait.
Redites-nous quelle est la fine pointe de l'intention de ces mouvements, au-delà de ce lieu, on va dire, de fraternité réelle.
Alors la fine pointe, c'est de découvrir aussi que nos fragilités sont le lieu où on peut se rencontrer. Philippe de la Chapelle l'a bien dit tout à l'heure, c'est par nos fragilités qu'on devient plus humain et qu'on a besoin des uns des autres et qu'on peut faire église.
Antoinette Rastel-Pouzin, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Comment se passe une rencontre type? J'ai noté qu'il y avait différents temps pour ceux qui seraient intéressés, qui auraient quelques a priori. Donc il y a un temps d'accueil. On partage après ce que l'on vit. Probablement que chacun parle un peu à tour de rôle.
C'est ça.
Et on essaye toujours aussi de trouver quelque chose de positif, si j'ai bien compris.
Ben, normalement, on n'intervient pas trop. Chaque personne peut exprimer ce qu'elle vit. On se connaît assez, donc on est très à l'aise là. Donc il y a ce temps de partage pendant une heure. Nous nous voyons tous les mois. Ensuite, nous avons une heure de réflexion sur la parole de Dieu, enfin le côté spirituel qui est animé par José.
C'est-à-dire, on commence par un temps de partage et après temps spirituel.
Tout à fait.
Deux temps
tout
différents.
À fait.
Donc,
ouais.
Chacun
deux
raconte...
temps différents. Oui.
Pendant ce temps de partage, chacun livre un peu ce qu'il a sur le cœur, tout
exactement,
simplement.
Exactement, oui. Et nous prenons des nouvelles des familles qui avancent petit à petit. On se réjouit que ça aille mieux, etc., évidemment. Hein. Et il peut y avoir des difficultés à tel ou tel moment. Mais nous sommes libres, en confiance, en amitié, là, et voilà.
Et
c'est très appréciable.
Et alors le temps spirituel après, racontez-nous
comment
ça se passe.
Et dans le temps spirituel, José nous fait réfléchir sur un texte. Nous avons la prière pendant une heure aussi. Nous travaillons sur ce texte petit à petit. Nous nous familiarisons plus sur l'étude du texte, enfin l'étude entre guillemets. Voilà, ce que nous dit ce texte, etc. Et ensuite, nous avons une petite rencontre amicale autour d'une collation.
Alors sur votre site Relais Lumière Espérance, on trouve cette phrase « À vous, famille, épuisée par la maladie psychique d'un proche ». Et puis il y a d'autres phrases comme ça qui parlent de la honte, du sentiment de culpabilité, du droit de crier. On peut venir tel qu'on est. Souvent, les familles en fait viennent en étant, on va dire, en grande souffrance.
Absolument. Il y a des familles qui viennent en grande souffrance. Alors, certains sont ont reçu une certaine foi dans l'enfance, quoi. Et quelquefois, ils ne reviennent pas. Je pense à une famille très, très éprouvée qui n'est pas revenue, mais qui a été très éprouvée, justement, et qui m'a appelée souvent au téléphone pour passer les difficultés. Voilà. Je pense que le côté spirituel les rebute un petit peu. Comment faire, je ne sais pas.
Donc, il y a un compagnonnage aussi au long cours.
S'il y a une demande, nous répondons.
Ouais. José Resson, est-ce que ça se passe de la même manière dans les groupes Amitié Espérance ? Est-ce qu'on vient avec ce qu'on est, on partage un peu ce qu'on a sur le cœur, même si on doit venir pour crier, et puis après on a un temps spirituel pour essayer de petit à petit de trouver la présence de Dieu, même au cœur de ces grandes difficultés ?
Tout à fait, oui. Je voudrais dire d'abord les cinq grandes souffrances des personnes en difficulté psychique. La maladie, c'est la première. La perte des amis, souvent. Au moment de la maladie se déclenche, les amis ont peur. Ensuite, la honte. Vous en avez parlé un peu, Emmanuel, sous l'effet du regard de nos proches, des mépris, des humiliations qu'on peut vivre. La quatrième souffrance, c'est de faire souffrir sa propre famille. Et enfin, trouver un travail est très difficile et on se sent inutile. Donc par rapport à ça, chacun est invité à partager son vécu avec une grande écoute entre nous. On ne s'interrompt pas, on s'écoute en profondeur, on ne se juge pas. Et puis on essaye de souligner les qualités, les charismes, les valeurs de chacun. Et on s'encourage dans les difficultés. Et on essaye de vivre un rythme adapté aux personnes. On se soutient les uns les autres, en particulier dans la prière. Quelquefois au téléphone, et puis on essaye de s'ouvrir à toutes sortes de difficultés autour de nous, parce que des personnes qui vivent dans la honte, par exemple, ben, il y en a des millions en France, et c'est un sujet dont on ne parle jamais, parce que ces personnes-là ne peuvent pas parler, justement.
Qu'est-ce que vous diriez de la dimension spirituelle ? Est-ce qu'il y a aussi un temps de partage autour d'un texte biblique à chaque fois ?
Tout à fait.
Alors, que c'est très délicat quand même d'emmener sur ce chemin ?
Non. Non, non, pas spécialement délicat. On choisit un thème ensemble, en général pour la fois suivante. On choisit un thème sur lequel on partage. Chacun dit ce qu'il en pense. Et dans un deuxième temps, on dit qu'est-ce que la foi peut éclairer par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à ce thème, à ce sujet. On finit par un petit temps de prière, oui.
On imagine qu'il y a une question qui revient quand même souvent, et on finira par ça avant de faire une deuxième pause. C'est Dieu dans tout cela ? Où est-il ? Que fait-il ? Enfin, j'imagine que tout le monde fait face un jour à cette question. Difficile de répondre. Je ne sais pas comment vous essayez dans vos mouvements d'accompagner les personnes sur ce chemin. Est-ce que c'est d'abord juste d'être en silence et d'être fidèle et d'être à côté qui fait qu'on arrive à traverser ces questions-là ? Qu'est-ce que vous diriez, Antoinette Rastel-Pouzin ?
Moi, je crois que quand chacun de nous, Dieu enfin, non seulement présent, mais c'est la question essentielle pour toutes les personnes qui viennent là, plus ou moins, mais enfin, pour moi, elle est essentielle. Et nous sommes heureux de pouvoir approfondir cette question pour pouvoir avancer quand même. On se rend compte qu'avec les années, à force de se retrouver devant les textes bibliques, etc., la pratique de foi aussi, les sacrements, tout ça, nous avançons quand même dans notre foi, nous nous renforçons.
D'accord, mais on traverse forcément ce moment de révolte, j'imagine, non ? Il y a toujours quand même une interrogation profonde, on se
Alors,
dit...
Moi, quand ça m'est arrivé, j'ai dit « Seigneur, tu connais ma fragilité. Pourquoi moi ?» Mais je ne suis pas restée sur le pourquoi. Est-ce que j'ai entendu la réponse ? Je me la suis fabriquée. J'ai pensé que Dieu me demandait, que c'était un moyen pour moi pour dépasser toutes mes difficultés à vivre. Je me suis dit « ça m'est donné pour que j'arrive à en sortir ».
José Resson, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet de...
Oui, mais nous avons l'expérience, comment Dieu nous a aidés personnellement. Moi, j'étais au bord de la paranoïa quand j'avais 12 ans. Et Dieu déjà m'a sorti de là. Et puis dans toutes nos difficultés avec nos proches, Dieu est celui qui est le plus proche de la personne qui souffre. On peut se révolter contre lui, mais au contraire, il est bien de s'approcher de lui et d'accueillir son amour pour la personne qu'on aime et d'accueillir son amour pour nous en difficulté aussi par rapport à nos proches.
Est-ce que vous pouvez dire un mot de Thérèse de Lisieux? Parce que j'ai vu que dans le groupe Amitié Espérance, il y avait un peu trois patronnes de ce mouvement donc, d'église, que sont donc, Marie, Thérèse et Bernadette. Donc Bernadette de Lourdes, Marie, on voit qui c'est. Thérèse de Lisieux, pourquoi est-ce que Thérèse de Lisieux a une telle place ou une telle importance?
Alors, parce que Thérèse de Lisieux a vécu elle-même, je dirais pas qu'elle a pété les plombs, mais... C'est un peu ça, elle-même, elle a déraillé dans sa jeunesse, vu les difficultés avec sa famille, c'est la mort de sa mère, de ses sœurs qui se sont occupées, pas la mort, mais l'éloignement de ses sœurs qui sont rentrées au Carmel. Donc elle a été très perdue et perturbée. Voilà, donc et puis... son chemin nous aide.
Et puis Thérèse de Lisieux, c'est aussi donc la petite voie, comme on dit, hein, c'est voilà, d'apprendre à cheminer vers Dieu en acceptant sa fragilité, avec toujours cette image, hein, je crois que c'est dans ses mémoires où elle dit qu'elle ne se sent pas capable d'aller à Dieu, mais elle se laisse porter par les bras de Dieu lui-même. Voilà. Les relais Amitié Espérance, Lumière Espérance donc pour les parents et Amitié Espérance pour les personnes concernées, on peut tout simplement trouver les sites internet et trouver les relais locaux, il y en a donc dans notre région, entre autres à Toulouse. On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver deux autres de nos invités, Anne-Marie Borès et Marie-Ange Lafuente, qui vont nous raconter un petit peu ce qu'elles ont traversé ou ce qu'elles traversent comme difficulté, ce qu'elles trouvent dans ces groupes Amitié Espérance. Thank you.
Radio Présence à Gourdon 104.8. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Maladie psychique, quelle pastorale. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Donc José Resson du groupe Amitié Espérance, Antoinette Rastol-Pouzinck du Relais Lumière Espérance et Anne-Marie Borès et Marie-Ange Lafuente, toutes les deux qui fréquentent des groupes Amitié Espérance. On va en parler dans un instant en essayant de donner la parole donc à ceux qui vont à ces groupes, que ce soit des personnes concernées ou des parents. Et je me rends compte que j'aurais, au lieu de maladie psychique, j'aurais dû dire fragilité, puisque c'est le thème un peu de l'émission et du livre de Philippe de la Chapelle qu'on avait au début de l'émission, La voix de la fragilité. Ça stigmatise moins, et puis des fragilités, qui n'en a pas un moment dans sa vie. On va commencer avec vous, Marie-Ange Lafuente. Donc vous avez été concernée par la fragilité, et puis vous avez croisé sur votre route les groupes Amitié Espérance. Et pourriez nous dire, pour commencer, un petit peu quelle était cette fragilité, de quoi vous avez souffert?
J'ai souffert par une grande émotivité, et notamment dans mon travail. C'était assez mal vu par les supérieurs hiérarchiques. Donc j'ai été arrêtée, on m'a arrêtée.
Donc vous étiez enseignante?
J'étais enseignante, et dans l'éducation nationale, c'est assez mal vu d'être fragile, émotive, notamment devant un groupe classe. Voilà, où je manquais d'autorité, voilà. Donc, en résumé, c'est ce qui m'a poussée à fréquenter des associations telles qu'Amitié Espérance et à rencontrer des personnes. J'ai découvert beaucoup de sympathie, de fraternité et une grande amitié avec certains membres. Voilà, c'est donc ma voisine, que je salue au passage si elle écoute, Marie-Jeanne, qui m'a entraînée parce qu'on devait... s'accompagner, enfin bon, je devais l'accompagner, on devait s'accompagner, donc comme je dis toujours, on s'accompagne mutuellement pour aller à Lisieux.
Oui, voilà. Parce que Marie-Jeanne est aveugle, donc elle a besoin, oui, d'accompagnement.
Et voilà, et merci donc José de m'avoir accueillie.
Alors juste, Marie-Ange Lafuente, vous me disiez en préparant l'émission que vous, la grande difficulté à laquelle vous aviez fait face, soit dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, c'était d'évoluer dans un univers où la confiance n'allait pas de soi, en fait, où il y avait une espèce de défiance les uns à l'égard des autres. Pouvez-vous repréciser ça et redire ce que vous avez trouvé, au contraire, dans le groupe Amitié Espérance?
Oui, donc au travail, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas se livrer émotionnellement, de ne pas parler de soi, de ses douleurs, de sa famille, enfin, voilà. Et dans les associations, oui, on peut parler de soi-même, et même de sa fragilité, de son émotivité, de ses sentiments. Dans certaines associations, telles que Amitié Espérance, on trouve du réconfort, voire de la consolation, et ça...
Donc ça a changé ça votre rapport, oui, aux autres, vous disiez, hein.
Oui, c'était bon, j'ai dans la confiance. Oui. pour pouvoir se livrer, raconter ses faiblesses aussi.
Anne-Marie Borès, vous, pareil, vous avez croisé sur votre route les groupes Amitié Espérance. Racontez-nous un peu quelle était votre fragilité, ou alors je vais l'introduire. Donc à un moment de votre vie, vous avez vécu une période compliquée où vous avez connu la dépression, et puis s'est enchaîné un certain nombre d'événements et de dépressions un peu à répétition. Dites-nous la difficulté dans laquelle vous étiez, et puis comment vous avez rencontré un groupe Amitié Espérance.
Je me sentais seule, très seule, manque d'affection, et pourtant cette solitude que j'ai vécue, je pense que la maladie, je ne l'aurais pas surmontée de la même façon si je l'avais vécue entourée de plein de gens. Donc ça me permettait de réfléchir un peu.
Comment vous avez rencontré les groupes Amitié Espérance? Qui vous en a parlé? Un proche ou...
Amitié Espérance, c'est José qui m'en a parlé, et j'ai été de suite. Et Amitié Espérance m'a apporté beaucoup de comprendre les gens, de voir les différences entre les personnes et de mieux accepter chacun dans ses différences.
Et dans votre fragilité aussi, vous disiez ça en préparant l'émission.
Oui,
est-ce
voilà.
que vous pouvez préciser ça? C'est-à-dire, en fait, avant votre fragilité, quoi, vous aviez honte, comme disait José, et puis aujourd'hui, vous vous dites, bah voilà, je suis comme ça, et puis je suis pas la seule.
Voilà. Amitié Espérance m'a fait réaliser que, en fait, j'étais pas la seule à être comme ça, quoi, et que on était nombreux, quoi. Et ça m'a aidé un peu à surmonter ma maladie, quoi.
On va voir du côté des parents maintenant avec vous, Antoinette Rastol-Pouzinck. Vous l'avez dit donc un petit peu, vous vous êtes tournée vers des groupes de parole, et puis après vous avez l'idée de monter, on vous a soufflé l'idée, mais bref, vous avez monté ce groupe Relais Lumière Espérance. Expliquez-nous, vous, un peu le chemin de parents que vous avez fait, s'il y avait un avant, un pendant et un après, comment vous le décririez?
Eh bien, pendant 10 ans, nous n'avons rien fait, on a vécu comme on a pu, comme la plupart des familles. Et je me suis fait aider de différentes façons aussi. J'ai compris que c'est un problème qui allait durer longtemps, les difficultés avec un fils malade, etc. Et c'était pas facile du tout. Donc, je me suis fait aider de différentes façons. Et j'en parle un peu pour dire aux familles qu'il ne faut pas rester comme ça.
Ça veut dire quoi, si vous deviez être un peu plus précise?
J'ai trouvé un psychiatre qui m'a tenu la main pendant des années et qui m'a permis de surmonter telle ou telle difficulté. J'ai fait partie du groupe, un groupe de formation à l'écoute avec les époux d'ex qui viennent souvent ici. J'ai eu la prière des mères à la maison pendant des années. Voilà, je salue Rose, 92 ans, ouais, avec des piliers,
oui.
Des piliers, voilà, groupe de prière, etc., et plus relais. Donc, avec tout ça, je pense...
Voilà. Alors, si vous regardez dans le rétroviseur, justement, qu'est-ce que ce groupe relais Lumière Espérance a...
Eh bien, je trouve que je suis beaucoup plus debout qu'il y a, peu importe le nombre des années. Je suis peut-être mieux aujourd'hui que... plus jeune, quand j'étais plus jeune. Et voilà. Et dans ma famille, notre famille, avec le temps, après 30 ans de maladie, notre famille retrouve une certaine unité. Mon fils va bien mieux et notre relation est bien meilleure. Alors ça, déjà, c'est un acquis. C'est déjà du bonheur. C'est déjà du bonheur au quotidien, même si de temps en temps, nous nous accrochons.
Est-ce que ça vous a aidé aussi, quoi, à comprendre la maladie de votre fils?
Alors là, moi, je la comprends de l'intérieur. Je comprends des choses qui me sont données petit à petit et je lui donne des outils. Nous parlons énormément de tout et je lui montre comment, à un endroit, il pourrait stopper son angoisse avant qu'elle prenne tout son essor. Il ne veut pas m'écouter, mais à un moment donné, quand il sent que c'est vrai, il entend. Voilà.
Pour finir, José Resson, qu'est-ce que vous diriez, vous qui accompagnez donc ces personnes ou ces familles, un regard extérieur, pourquoi est-il important de se tourner vers tous ces lieux formidables?
Parce que tout seul, on n'a pas la force de vivre trop de difficultés. Et ensemble, avec les aides qu'on trouve dans nos mouvements, eh bien, on accepte nos fragilités, on accepte et on change de regard sur nous-mêmes, sur nos frères et sur Dieu.
Et ben voilà, donc ça rejoint cette phrase que je citais qu'on trouve sur vos sites. Un frère appuyé sur un autre frère est une citadelle imprenable. Si vous voulez trouver des relais Lumière Espérance ou des groupes Amitié Espérance, et ben tout simplement vous tapez le nom sur internet. Pour les relais Lumière Espérance, c'est le premier mercredi de chaque mois. Les Amitiés Espérance se réunissent un samedi par mois aussi. Il y a une revue pour les familles qui fréquentent ce relais Lumière Espérance, ça s'appelle Le Lien. Et puis on redonne donc le titre du livre paru récemment donc aux éditions MAM, La Voix de la Fragilité, livre de dialogue entre Philippe de la Chapelle et Jean-Christophe Parizeau, à lire et à relire. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.